RFI, France 24, présente.
Hello la famille, bienvenue dans Légendes Urbaines, l'émission faite par nous pour tous de RFI et France 24. Si je devais décrire notre invité du jour en une citation, je dirais « Croire en l'incroyable permet au destin d'avoir confiance en soi ». Et en effet, quel incroyable, ou plutôt amazing destin, t'as vu l'accent, qui est celui de notre hôte, connu et reconnu comme humoriste, il met au service de son art ses expériences de vie aussi éclectiques que surprenantes. Originaire de... ville de banlieue parisienne ou parfois...
pour des sous, pour des femmes, ça fait chanter le AK.
Rien ne le prédestinait à devenir comédien. Autant vous dire qu'avant d'être le comte en guenille le plus célèbre de la noblesse du bendo et de pouvoir clamer légitimement comme Huss, le gimmick légendaire...
aristocrate.
Fais-moi la bise comme un aristocrate. Il lui en a fallu du temps. Il a d'abord endossé multiples brassards de prof de français aux États-Unis à celui de basketteur pro en Algérie et au Connecticut. Je suis d'ailleurs certaine qu'il a chaussé
le Jordan 8 avec les scratchs.
Mais comme la vie n'est pas toujours un long fleuve tranquille, il connaît un
parcours accidenté,
obligé de se réorienter ou vers d'autres passions. Comme le dit si bien Kaloun, si le plan ne fonctionne pas, alors change de plan. All right, Henry? Je l'ai lu le bouquin, ok. Alors, féru d'écriture, de littérature et d'humour, il revient à ses premiers amours et ses racines, se rappelant que, comme tous les mecs de quartier qui se respectent, il aime être en mode passer du temps. Alors c'est décidé, il en fera son métier. 15 ans plus tard, il peut se targuer d'avoir réuni plus de 1,4 million de spectateurs sur presque 3500 dates, sans compter sur les festivals et vidéos virales sur le net devenus de véritables classiques. Il rend précis et sans compromis. Il affectionne pointer du doigt l'absurdité des situations.
Et comme dehors, c'est Koh-Lanta.
Il a de la matière. Maître dans l'exercice de la caricature, il n'hésite pas à se moquer de personnages qui, pour certains, il faut l'avouer, tendent le bâton pour se faire battre. Et mon frère ?
On respecte tout le monde, on a peur de personne.
Ouais, ouais. Là, tu peux faire ton visage du 9-4. Voilà, je sens que t'avais envie depuis tout à l'heure. Il nous fait l'honneur de sa présence dans les studios de Légendes Urbaines à l'occasion de son nouveau spectacle, troisième du nom, messieurs, dames, juste pour vous, Sami Amezian, alias le comte de Boudherbala. Coup de ça !
Nous sommes transportés dans une autre dimension, dans un univers fait non seulement de paysages et de sons, mais aussi d'esprits.
Bon, c'est le moment où il faut être attentif. Juliette Fievet et ses invités vont vous raconter leur légende. Leur légende urbaine.
Jump around! Jump around! Jump around! Jump up and get down!
Sami Amezian, alias le comte de Boudherbala. Sami, bienvenue chez toi.
Bah, Juliette, merci de m'accueillir. Un rêve qui se passe. Merci pour
un rêve
tout.
Qui se réalise.
Ouais, c'est chaud.
Espèce d'arnaque. Ouais, le gars, bah, 1 400 000 téléspectateurs, 10 films, 3500 dates. Ton rêve, c'est de venir dans Légendes Urbaines.
Arrête d'arnaquer les gens, s'il te plaît.
Non,
c'est le problème. Moi, j'adore ton émission. Mais non, c'est ce que je dis souvent quand je fais de la promo, c'est que c'est rare, c'est con, mais c'est rare. En télé, t'as plus d'émissions où t'as le temps de parler.
C'est
tu
vrai.
Vois, parce que maintenant, faut aller vite. Surtout nous, entre guillemets, les humoristes, on t'appelle, voilà, faut vite faire rigoler les gens, des blagues, allez, faut que ça rigole.
C'est
t'as
vrai.
Plus le temps d'installer les choses, de discuter, d'être justement comme on est yeux dans les yeux, c'est hyper rare. Donc c'est pour ça que c'est des émissions de qualité. Et t'as une émission de qualité, c'est pas pour faire le sucker, mais je te promets, c'est vrai.
Merci beaucoup.
Ben non, c'est sincère.
Ça me touche
et puis,
beaucoup.
On se connaît depuis un moment, donc moi, j'ai ravi d'être là, ravi.
On a un rituel dans Légendes Urbaines, comme tu le sais, c'est de revenir au début. Donc tes parents sont originaires d'Algérie. Tu es né et t'as grandi à Saint-Denis, donc en banlieue parisienne, le 9-3. Je crois qu'il y a plein de gens dans le monde entier qui ont entendu parler du 9-3, parce que c'était une ville très représentative du rap, parce qu'il y a des légendes comme NTM, entre autres. À quoi ressemblait ton enfance ? Vous êtes une fratrie de 4, hein, je crois. Hein.
Nous, on est voilà, 2 garçons, 2 filles, parents algériens, kabyles, qui arrivent dans les années 60 pendant la guerre d'Algérie, parce que moi, mon père perd son père pendant la guerre d'Algérie côté FLN. Et donc, on se retrouve à Saint-Denis. Enfin, moi, je grandis à Saint-Denis. Et moi, voilà, je ne suis pas un mec de quartier, entre guillemets. Je ne suis pas un mec de cité, entre guillemets. Et moi, je pense que j'ai grandi, maison, donc un peu un bouffon des pavillons, entre guillemets.
Ouais, mais t'étais en dessous d'une truc qui porte la poisse.
Voilà, encerclé de cité, mais dans une rue très spécifique qu'on a appelée la rue de la mort. Pourquoi la rue de la mort ? Parce que face à l'hôpital de La Fontaine, fenêtre de chambre qui donne sur la morgue, 60 mètres plus loin, foyer de personnes âgées, 10 mètres plus loin, hôpital psychiatrique en face d'un distributeur de seringues pour toxico, et j'ai grandi au-dessus des pompes funèbres, au numéro 13. Mais c'est pas un sketch, hein. c'est véridique, tu vois. Donc moi, ayant grandi dans cet environnement-là, forcément, t'es obligé de juguler les rapports de force avec les autres, tu
vois, développer
avec
un instinct de survie.
Et surtout, développer un instinct de « j'ai envie de kiffer et j'ai envie de rigoler ». Et puis, de poussière à poussière, tu retourneras à la terre. Parce que c'est ça l'histoire de cette rue.
Ta maman, faut contextualiser quand même, ta maman, elle vous élève, vous quatre. T'es le plus jeune de la fratrie, me semble-t-il. Elle fait les ménages, ton père est ébéniste menuisier, il a un atelier à Gennevilliers, il fait des agencements de magasins. Tout le monde me dit que quand tu étais petit, mais t'étais, parce qu'il y a encore le cas aujourd'hui en réalité, peut-être que t'es moins naïf, mais t'étais super gentil, t'étais super mignon, super candide.
Victime de chez victime. Et ma sœur, c'est vraiment des barres de rire. Tu sais, moi, à l'époque, j'étais abonné aux les fiches d'Alain Bougrain-Dubourg. C'était une banane. Au départ, tu achetais 100 fiches, 5 francs. Ouais. Et après, ils te mettaient la carotte, ils t'envoyaient 10 fiches, 30 francs.
Pour les animaux ou pour les secrets d'histoire,
c'est
etc.
Ça, c'est ça.
Attends, pour expliquer quand même, recontextualisons, parce que les gens qui nous suivent connaissent peut-être pas Alain Bougrain-Dubourg. C'est un journaliste, mais qui se bat d'ailleurs toujours pour la protection et de l'environnement, et puis des oiseaux en particulier et des animaux. Et en France, en l'occurrence, on avait le droit à avoir des... Enfin, voilà, on achetait des petites fiches, je crois qu'elles étaient gratuites. On pouvait avoir 10 petites fiches qui nous apprenaient l'histoire ou la vie des animaux.
C'était ça, ouais.
Et ensuite, il fallait payer.
En fait, c'est une petite banane. Au départ, tu avais 100 fiches, c'était génial. Mm-hmm. 5 francs, ce qui était, c'était hyper intéressant. Et après, ils te demandaient de t'abonner. Donc forcément, c'était 30 ou 40 francs, les 10 fiches, les 20 fiches. Bon, ils se rattrapaient derrière ce fameux Alain Bougrain-Dubourg. Et moi, j'enclenche le truc d'avoir la continuité des fiches. Donc, je reçois des factures. Mes petits et mes sœurs voient ça. Et donc, Ned voit ça, ma sœur Nadia. Et elles s'amusent à faire des lettres d'huissier. Mais genre, elles ont 10-11
piges. Les lettres d'huissier.
Et donc, elles écrivent des lettres et elles m'envoient des lettres. Genre, l'aide d'huissier, il faut absolument... c'est Alain Bougrain-Dubourg, il faut payer, nanani, nanana. Donc moi, je commence à paniquer. Et elles me disent, si t'arrives à leur donner 20 francs comme ça, de la main à la main, ils peuvent s'arranger. Donc forcément, elles prenaient les 20 balles et elles allaient s'acheter des gâteaux, des trucs. Et moi, je pensais être à l'abri. Mais tu vois, des petites bananes,
donc,
c'était marrant.
Tu te faisais rodka à ton...
Je me faisais carotter par mes sœurs.
Mais moi, on m'a même dit que tu lui as écrit une lettre à Alain Bougrain-Dubourg.
C'est ça, parce que moi je me dis, le gars il m'envoie les suicides.
Tu lui envoies une lettre d'excuse, je négocie.
Tu lui envoies une lettre d'excuse.
Ah, vraiment, Qu'est-ce que tu lui as écrit?
Un truc de bouffon, cher Alain Bougrain-Dubourg, bonne année. Bonne année. Oh, la victime, tu vois. C'était mignon.
Quand est-ce qu'elles t'ont dit qu'elles t'avaient arnaqué, tes sœurs?
Non, mais après.
Tu t'en es rendu compte quand?
Non, mais en fait, parce que après, il y a un moment, je me suis dit, c'est quand même bizarre parce que tu sais, t'avais la boîte aux lettres de la poste qui était à l'angle en face de la rue. Et j'étais quand même un peu vif et je vois ma sœur partir avec l'enveloppe, avec les 20 francs, et je la vois ouvrir l'enveloppe à côté et prendre l'azeille et le mettre dans sa poche. Donc là, je me suis dit, ok, c'est quand même une arnaque.
Moi, je pense qu'elle l'a posté quand même.
Bonjour à tous, bonjour Juliette, cher Samy. Il y a bien longtemps que je voulais répondre à ta lettre sur les fiches animaux. Rassure-toi, il n'y a aucun problème. En revanche, je voudrais te demander une aide, non pas pour moi, mais pour les animaux, pour la biodiversité qui est en déclin. Est-ce que tu pourrais être un ambassadeur? Est-ce que tu pourrais défendre ces bêtes si maltraitées? Voilà, je ne doute pas que tu le feras. Merci d'avance.
Oh, les crapules. Vous êtes les meilleurs.
Magnifique. Il a reçu ta lettre.
Il est marre.
Tu veux peut-être dire quelque chose à Alain Bougrain-Dubourg?
Cher Alain Bougrain-Dubourg, déjà rends-moi mon oseille. Déjà rends-moi mon oseille, puis bonne année aussi. Ah, démarre. Non, c'est marrant, ça.
Écoute, quand on lui a raconté cette histoire, je pense qu'il m'a pris pour la folle de Chaillot. Puis après, il a dit, quand même, c'est drôle, je vais faire la vidéo. Donc, il a reçu ta lettre.
C'est débarrassant. Mais t'arrives toujours à avoir des gens inespérés. Franchement, t'es fort.
Ah, franchement, heureusement, à Alain Bougrain-Dubourg, je remercie Yann Arthus-Bertrand qui m'a donné son numéro à l'arrache un soir à 21h. Donc, autant te dire qu'il y a tout un petit monde qui me prend vraiment pour une folle, en fait. En racontant ton histoire, donc tout le monde est au courant que tu es un bouffon qui a envoyé des lettres. Sache-le. Ça, c'est important aussi. T'es discipliné, t'es bosseur. Tu fais les choses, des choses qui sont extraordinaires. Comme tu le disais, t'es le seul basketteur d'un mètre cube, tu vois. Tu te retrouves aux États-Unis. Tu racontes cette histoire merveilleuse dans ton livre Amazing. L'histoire, c'est vraiment le rêve américain que t'as vécu. Tu racontes de super belles histoires.
C'est le rêve américain, mais c'est le rêve français à la base.
Ouais.
C'est ça que j'essaie de raconter dans ce livre. C'est que moi, en partant là-bas, moi je pars comme mon père est parti d'Algérie, entre guillemets, mais dans d'autres conditions.
Ouais.
C'est-à-dire, je pars pour émigrer, je me dis je ne vais plus revenir. Pourquoi ? Parce que la France ne m'aime pas. Moi, c'est ça mon postulat de départ avant de partir. Et là-bas, il m'arrive tout ce qui m'arrive, c'est-à-dire par le biais d'une rencontre hasardeuse avec une coiffeuse. Je me retrouve à jouer avec l'équipe championne en titre que je voyais six
Holly.
Mois avant, Holly, la coiffeuse. Et donc, tout ce qui m'arrive là-bas, après, moi, j'ai ce déclic de « mais c'est possible ici. Pourquoi c'est pas possible chez moi ? Pourquoi je suis obligé d'émigrer ? Pourquoi je suis obligé de souffrir comme mes parents ont souffert dans une autre mesure ?»
Bien sûr.
Alors que moi, mon pays, c'est la France. C'est ça l'histoire. Et donc, je reviens en France parce que je me dis que le combat, mine de rien, il est ici. Mm. Et en fait, en partant et en revenant, j'arrive à couper mes barrières cérébrales, mentales, qui me disent bah, « la France t'aime pas, c'est pas un pays pour... » Non, c'est pas ça. C'est qu'en fait, il faut déjà que ça parte de soi pour essayer de faire en sorte que les choses se passent.
Tu racontes que quand tu reviens après un an aux États-Unis, t'es complètement déprimé parce que c'est retour à la réalité. Ton père te voit dans le couloir et dit « Ah, salut, ouais, c'était bien, ok, bon, je te laisse, je pars aux boules. » Je pars jouer à la pétanque. Ouais. Bon, donc c'est quand même super dur, ça.
Ouais, c'est dur. Mais après, moi, après, j'ai pris du recul là-dessus. Pourquoi ? Parce que j'ai compris l'histoire de mon père en partant. J'ai compris toute la souffrance qu'il emmagasine et qu'il cache. Moi, mon rep, il faut comprendre son histoire. Il perd son père, il a 15 ans. Pendant la guerre d'Algérie, il se retrouve chef de famille. Qu'est-ce que tu veux que je lui raconte mes conneries ? Tu vois ce que je veux dire? T'es pas du tout dans les mêmes délires. C'est la guerre d'Algérie, on en parle peu. Bon,
là, on en parle pas mal, parce qu'il y a une espèce de date anniversaire quand même.
Ouais.
Tu vois, donc,
d'ailleurs, joyeuse indépendance. Mais c'est dur. C'est pas un truc genre... Donc moi, on n'est pas du tout sur le même curseur. Donc moi, je peux pas me permettre aussi pudiquement de m'aligner et de dire « Papa, il faut me regarder maintenant. Faut que tu t'intéresses à moi. » Tu vois,
pas faire évidemment. Toi, en tout cas, tu sembles ne t'être jamais donné aucune limite. Tu reviens, c'est un peu bizarre, tu sais pas trop ce que tu veux faire. Tu te lances dans l'humour, dans un collectif au départ, il y a une vingtaine d'années, Barre de Rire, un peu moins d'une vingtaine d'années. Tu vraiment décides de te lancer dans le stand-up. Mais on dirait que tout est simple en fait à chaque fois, alors qu'encore une fois, t'es un bosseur. Il y avait Valde qui était ici il y a pas longtemps qui disait qu'il avait essayé un peu l'humour avec un de ses potes et qui dit bon, on a fait qu'une scène. Hein. Parce qu'en fait, c'est le truc le plus flippant de la Terre, c'est hyper dur de faire rire. Il n'y a pas beaucoup de choses qui sont aussi dures que de faire rire dans l'art, les gens. Comment t'as tenu?
Non,
comment tu t'es dit, ok, j'y vais? Parce que entre les gens qui disent, ah, t'es marrant, tu fais les blagues, et entre aller sur scène, tenir le truc et te lancer comme tu l'as fait, quel a été ton déclic?
Non, bah alors le déclic, déjà, c'est aux États-Unis, moi j'ai eu un premier déclic. En fait, le déclic, il vient au fur et à mesure, tu vois, c'est un cheminement. C'est qu'au départ, on t'invite à manger en vacances parce que t'es le mec marrant. Tu vois que tu fais rigoler tout le monde dans les vestiaires ou en cours, donc t'aimes ça. T'as une famille, moi j'ai une mère qui est une grande charrieuse, mon père aussi, mes frères et sœurs, ma tante, exceptionnellement charrieuse. Donc quand tu grandis, et ça je pense que c'est aussi assez inhérent...
Nadia, extrêmement dangereuse.
Nadia, grande chambreuse. Tu vois, mais je pense que c'est spécifique aussi aux familles algériennes. Parce que quand tu vois l'histoire de l'Algérie aussi, et l'Algérie en général, On est des grands tailleurs. Et l'humour algérien, c'est aussi, moi, mon humour de référence, parce que j'ai grandi avec les Lounès Tazahirt, Fellag, donc les films de l'époque en Algérie. Donc, tu as aussi un point de vue, tu développes un point de vue. Donc, moi, j'avais déjà un déclic où je me disais, mais j'avais pas... j'étais hyper timide. Moi, j'ai grandi en regardant mes chaussures. Donc, c'est venu au fur et à mesure. Et aux États-Unis, quand je voyais les étudiants américains qui avaient mais rien à dire, mais qui se levaient fiers d'eux, mais parce qu'il y a toute cette culture américaine du protestantisme, où justement, ça peut partir de toi. Moi, je me dis, mais moi, j'ai envie d'être comme ces mecs-là, tu vois. Pourquoi je ne serais pas comme ces gars-là? Mais parce qu'on ne t'enseigne pas en France à prendre la parole. Là, ça commence à arriver avec le délire de l'éloquence, ça fait 5-6 ans. Mais ça, normalement, ça devrait être enseigné, mais depuis.
Bien sûr.
Parce que c'est hyper important de dire aux étudiants de prendre la parole, de s'assumer, d'essayer de défendre ses idées comme ça. Et forcément, quand tu les défends avec humour, ça passe beaucoup plus. Et donc, en gros, en rentrant des États-Unis, je me dis, j'ai fait une blessure à l'épaule, le basket, je vais le mettre pendant un an de côté, qu'est-ce que j'ai envie de faire? Il faut que je raconte mon histoire, mais personne ne va me croire si je la raconte comme ça. Je vais essayer d'insérer des blagues, je vais faire un one-man, et en fait, c'est parti comme ça.
Tu joues au théâtre du Temple à l'époque, c'est ça?
Non, j'étais au gymnase.
C'était au petit théâtre du gymnase, Tu joues ce spectacle pendant 8 ans, c'est un délire. Tu fais 1 400 000 entrées. Juste sur ce spectacle, tu le joues. Au final, tu crées un... Donc, tu le joues d'abord dans des toutes petites salles, tu préfères jouer dans les petites salles, et puis tu grossis de plus en plus. Tu crées un second spectacle, tu fais 600 000 entrées. Et puis là, t'en es à ton troisième spectacle. Mais tout ça en 10 ans. Qu'est-ce que t'aimes le plus, l'écriture ou la scène?
Moi, j'aime les deux. Après, c'est tellement jouissif parce que t'imagines, t'écris des conneries, tu te dis, tiens, je vais essayer d'aller donner ça aux gens. Mais en fait, moi, maintenant, je prends ce métier comment? Je me dis, mais est-ce que déjà, ça me fait rigoler, moi? Est-ce que j'ai envie d'aller défendre ce truc-là? Et après, j'essaie d'être sur des niveaux de, c'est un sujet de société, c'est un sujet sociologique, c'est un sujet qui me touche. Est-ce que j'ai envie d'aller défendre mon point de vue devant les gens? Mais surtout... t'as envie de passer un bon moment.
On a un rituel dans les légendes urbaines, Samy, c'est de passer un message universel. Il y a beaucoup, beaucoup de gens qui nous suivent dans le monde entier, des dizaines de millions de personnes sur RFI France 24, sur YouTube, sur les réseaux sociaux. Merci de nous suivre aussi nombreux et d'être aussi nombreux. Quel serait le message universel que tu auras à passer?
Je vais pas vous dire de venir à mon spectacle.
Non, c'est... Moi...
Mais le seul message universel que j'ai à vous passer, c'est tendez la main vers l'autre, prenez-le dans vos bras et susurrez-lui des mots doux à l'oreille. Ça le détendra et ça lui proposera un autre horizon.
Il a un truc avec les oreilles parce qu'en fait, il n'est pas doudou quand il était petit. Et en fait, du coup, il passait son temps à faire ça aux oreilles des gens. Je dis ça, on m'a dit ça.
Tu connais tout.
Pourquoi? Et t'as arrêté,
ouais,
du coup.
Chelou. Et mes enfants le font, c'est bizarre.
Non,
ouais.
Et ils font ça aux gens, en fait.
Comme ça, ouais.
Voilà.
Ouais. Ça doit être un truc qui rassure, je pense.
Peut-être.
Ouais, c'est très bizarre. Très chelou, hein, quand même.
Très étrange.
Ouais. 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 C'était soit comique, soit Guy Georges.
On a fait comique. Samy, je te remercie. On va accueillir Souleymane et Dora. Mille merci, merci, merci. Vraiment, si vous avez l'occasion d'aller voir le spectacle de Samy, c'est juste extraordinaire. Gaieté en attendant. Allez voir sur YouTube le compte de Boudarba. Je peux vous dire, vous n'êtes pas au bout de vos surprises. La famille, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même endroit. Rendez-vous sur la chaîne YouTube de Légendes Urbaines pour la version en intégralité. Parce qu'on s'est dit plein de choses. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Merci de t'être livré.
C'est moi, Juliette. Merci
ce point.
À toi.
Je suis un big up à Valentin et Anthony qui sont venus nous faire un coucou. Voilà, exceptionnellement aujourd'hui. Et puis la famille, rendez-vous la semaine prochaine. Et en attendant, paix, amour, lumière sur vous. One love, Sam.
Juju, merci beaucoup.
On est ensemble.